venir dans votre église pour plein de raisons.
Déjà parce que vous êtes là. Ensuite parce que, vous savez, quand vous allez à droite et à gauche prêcher, il y a toujours différents types de chairs. Il y a des chairs qui sont planes. Par exemple, quand j'étais à Los Angeles, j'ai visité l'église de John MacArthur, sa chair, elle est toute plate. Donc, il pose à plat, vous voyez. Pareil chez John Glass. Bon, John Glass, il a été envoyé par John MacArthur en Suisse, et il a même piqué la chair, vous voyez, c'est tout plat, comme ça. Ce matin, la chair, elle était un peu inclinée, c'était un peu comme une piste verte, vous voyez, en termes d'inclinaison. Mais votre chair à Saint-Maur, c'est vraiment piste noire, tu vois, quand tu veux suivre, limite en train de t'incliner, comme ça. Donc, c'est toujours un plaisir de voir la difficulté augmenter à mesure que la journée avance, puisque votre culte, il est à 14h, et c'est une joie. Je suis aussi très content d'être là avec vous. Quelques nouvelles, hein. Je vais vous donner quelques news, puisque vous savez tous que je suis parti aux États-Unis depuis fin 2013, on a commencé en 2014. C'était un cursus en 4 ans que j'avais prévu, j'avais pour objectif de finir en 3 ans, donc je me préparais à être assez intensif avec la grande inconnue, est-ce que j'allais y arriver. Et j'ai le plaisir de vous dire que je vais finir en 2 ans et demi. Donc je vais avoir le diplôme en mai prochain. Ça veut dire aussi que du coup, il me restera 6 mois dans mon cursus normal et je vais les consacrer à faire un deuxième master. Et ce master, il n'y aura que 6 mois de cours et je reviendrai en France faire la thèse. Et donc, je serai ici en décembre 2016, Dieu voulant. Et vous aurez de nouveau Guigui sur votre dos, n'est-ce pas, quand je reviendrai. Alors, on va regarder ensemble la parole de Dieu parce que c'est quand même pour ça qu'on est rassemblés. Et le but qu'on a aujourd'hui, c'est de voir ce que l'apôtre Paul, au travers de sa lettre à Thessaloniciens, veut nous dire quant à notre discipulat. Ce qui est assez frappant, c'est le contexte de l'église de Thessalonique. L'église de Thessalonique, si vous voulez regarder un petit contexte historique, vous retrouvez au début du chapitre 16 du livre des Actes la manière dont cette église a été implantée. Et cette église, elle a été implantée dans un contexte de proclamation de l'évangile très particulier. Vous savez que Paul était à son deuxième voyage missionnaire, et au moment où il arrive à Thessalonique, il rentre dans la synagogue des Juifs, et quand il rentre dans la synagogue des Juifs, il prêche pendant 3 sabbats, et à l'issue de ces 3 sabbats, il se passe une sorte d'émeute dans la ville, et les Juifs le persécutent violemment, physiquement, à tel point que Paul est obligé de fuir et de se rendre dans une ville voisine environ 60 km qui s'appelle Béré. C'est la fameuse phrase à Béré, vous savez, où il est dit que les Juifs de Béré avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi ? Parce qu'ils regardaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ça s'est mal passé pour Paul quand il est arrivé à Thessalonique. Il a prêché la parole, il a été persécuté physiquement, il a dû partir rapidement. On ne sait pas s'il est resté 3 semaines ou plus, mais s'il est resté plus, ce n'était pas longtemps. Et quoi qu'il en soit, c'est une église qui a dû avoir 2 ou 3 mois d'existence au moment où Paul est parti. C'est donc un contexte de proclamation de courte durée, avec quelques disciples, et c'est une église qui a été laissée très rapidement à elle-même. Maintenant, vous savez de quoi je parle. Ça fait des années que vous galérez parce que vous recherchez un pasteur. Et vous savez ce que c'est que de ne pas avoir de berger. Et pourtant, on peut dire, et vous savez que ça a toujours été mon opinion pour ceux qui sont les anciens ici en quelque sorte, hein, avec qui je discutais souvent, les vieux de la vieille, si je puis m'exprimer ainsi, vous savez que j'ai toujours dit qu'à Saint-Maur, il y a un potentiel de leadership incroyable. Dieu vous a béni, vous avez une grande ancienneté, mais vous savez ce que l'absence du berger peut faire. Mais regardez l'église de Thessalonique. 3 semaines d'existence. L'apôtre qui s'en va, des disciples laissés complètement à eux-mêmes. On peut s'attendre au pire. Mais regardez la lettre que Paul leur écrit. Il leur écrit une lettre où il rend grâce à Dieu pour leur amour, leur constance, leur persévérance, leur compréhension du dessein de sainteté de Dieu pour eux. Dans toute l'épître, vous voyez ces vérités transcendées. Thessaloniciens, vous êtes de vrais disciples. C'est à peine si les questions sur la fin des temps, l'eschatologie à la fin, ça a juste l'odeur d'une précision, vous voyez. Il leur précise un petit quelque chose, mais tout le long de la lettre, il les encourage. Votre amour est connu partout, votre foi est connue dans toute la Caïe et la Macédoine. Il y avait quelque chose qui se passait à Thessalonique. Vous savez ce qui se passait ? Nous étions en face de disciples authentiques. des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit et qui étaient transformés par cette puissance en eux pour les rendre conformes à l'image de Christ, tel que nous l'entendions tout à l'heure dans cette prière que Francis a faite. Ça nous rappelle une chose, c'est qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas juste un chrétien. Des chrétiens, il y en a plein. Alors c'est vrai, dans notre pays, nous sommes un pays où il y a de nombreux chrétiens de nom. La plupart d'entre eux ne se considèrent même plus chrétiens. Et de toute façon, la définition du mot chrétien est fluctuante. Prenez par exemple les gens qui sont actuellement en train de massacrer et de tuer au nom de l'islam, les gens qu'on appelle Daesh, l'État islamique. Si vous leur demandez leur définition de ce qu'est un chrétien, leur définition, c'est à peu près égal à ce qu'est un occidental. Chaque fois qu'ils pongent une bombe en France, chaque fois qu'ils tirent sur les terrasses, chaque fois qu'ils attaquent, comme ils l'ont fait en janvier dernier, ou comme ils l'ont fait récemment en novembre, chaque fois qu'ils font ça, ils estiment le faire contre des croisés, des chrétiens. La définition de chrétien est fluctuante, mais un enfant de Dieu n'est pas un simple chrétien. Un enfant de Dieu est un disciple de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu est un disciple qui suit son maître. Et pour le chrétien, ce maître, c'est Christ. Il l'écoute, il l'imite, il lui obéit et il cherche à lui ressembler toujours plus. Tel est notre appel et tel était l'appel des Thessaloniciens. Ce que je vous propose cet après-midi, c'est de regarder les caractéristiques que Paul donne dans l'introduction de sa lettre sur la qualité et la pertinence et l'authenticité du discipulat des Thessaloniciens et qu'on puisse en faire une évaluation de notre discipulat pour en vérifier l'authenticité, pour voir si nous sommes dans les clous et si nous n'y sommes pas, nous repentir. Et si nous y sommes, glorifier le Seigneur de nous y avoir amenés. Amen. Le premier point donc que je voudrais relever, c'est qu'un vrai disciple a la foi. Un vrai disciple a la foi. Regardez avec moi les versets 2 et 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Qu'est-ce que la foi ? Eh bien, chers amis, la foi n'est pas un simple faisceau de faits auxquels on adhère intellectuellement. Ce n'est pas croire que, ce n'est pas simplement adhérer à une idée, à un concept ou même à un parti. La foi, ça va bien plus loin que cela. Je vous cite pour moi la meilleure définition de la foi qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, et qui dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une ferme démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu es sûr des choses auxquelles tu t'attends dans l'avenir, tellement ta foi est exercée. Ça, c'est la foi chrétienne. Elle démontre à tes yeux des choses que tu n'as pas encore. C'est tellement plus que simplement adhérer à quelque chose. Vous savez, il me semble que dans ce monde, d'une certaine manière, on marche tous par la foi. Et je crois, pour être franc, et je vous fais une petite aparté là, que les athées sont les personnes qui ont le plus de foi. Parce qu'il faut drôlement de foi pour être athée, pour croire à un système logique où il n'y aurait pas de cause ultime, où il n'y aurait pas de Dieu. Ça paraît tellement illogique maintenant que nous sommes, n'est-ce pas, en train de voir le monde sous la clarté du Seigneur tel qu'il nous le révèle. Et on marche toujours d'une certaine manière par la foi. Par exemple, quand Francis s'est assis sur cette chaise, il s'est assis avec la foi que cette chaise ne casserait pas sous son poids. J'ai fait la même chose en arrivant. Je sais que depuis que je suis parti au Texas, certains ont eu la foi que la chaise allait se casser. Mais non, elle a tenu bon. La réalité, c'est que d'une certaine manière, tout ce que nous faisons est une démarche de foi. Tu appuies sur l'interrupteur, la lumière s'allume, mais tu as appuyé en ayant la foi que la lumière va s'allumer. Tout cela est une démarche de foi dans un certain sens. Mais la foi chrétienne, c'est bien plus que cela. Et cette illustration, je l'ai empruntée à notre frère Ludovic Angèle, que certains d'entre vous connaissent. Je l'ai entendu la dire un jour, ça m'a juste épaté. Imaginez que vous êtes en avion et que vous deviez sauter en parachute. Là déjà, c'est une foi un peu plus exercée que celle d'appuyer sur un interrupteur. Il faut avoir la foi que le parachute va s'ouvrir. Il faut avoir la foi que le parachute n'est pas troué. Il faut avoir la foi que quand vous allez atterrir, vous n'allez pas vous casser une jambe. Mais maintenant, la foi chrétienne, cela ressemble à peu près à ceci. C'est Dieu qui te dit « saute » et je t'envoie le parachute après. Dans un certain sens, c'est un petit peu ce que Dieu nous demande de croire. De vivre notre vie actuelle dans l'espoir d'une vie à venir où nous serons réunis et réconciliés avec lui, avec un corps glorieux, sans péché, sans mort, éternellement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi implique un engagement. Il est courant dans certains cercles chrétiens qui généralement sont critiques vis-à-vis du texte biblique. Ils ont tendance à avoir du mal à croire à l'absence d'erreur dans la Bible, à avoir du mal à croire qu'elle ne se contredit pas. On parle de libéraux ou de critiques généralement. Dans ces cercles-là, il est courant d'opposer la vision de Paul sur la foi et la vision de Jacques sur la foi. On dit souvent, Paul, c'est le salut par la foi. Et Jacques, c'est le salut par les œuvres. On parle des œuvres de la foi. C'est vrai que dans un sens, il y a Jacques 2 et il y a Romains 2 à 4. Mais est-ce que ces concepts s'opposent? Absolument pas. Car quand Paul a en tête la foi qu'il est en train de décrire d'un point de vue doctrinal, il est simplement en train d'exprimer ce qu'est la foi qui produit des œuvres. Pour lui, c'est acquis, c'est concret. Et vous le voyez quand vous regardez le chapitre 4, quand il décrit l'exemple d'Abraham, on parle d'Abraham qui se met en chemin. Ce n'est pas une foi qui le fait rester sur place. C'est exactement la même chose dans Jacques 2, sauf que le but de Jacques dans son épître est différent. Son épître, son but, c'est de démontrer ce qu'est une foi authentique. Mais par conséquent, quand on en arrive à Jacques 2, la première chose qu'il met en avant, c'est qu'une foi sans œuvre est morte. On pourrait plutôt paraphraser, une foi sans œuvre n'est pas la foi chrétienne. Il y a une foi qui produit des choses, c'est ce qui authentifie la nature même de cette foi. Est-ce que c'est une foi qui vient de Dieu? Est-ce que Dieu te l'a donnée? Oui, elle produira des fruits. Et c'est ce qui se passait à Thessalonique, et c'est pour ça que Paul est encouragé. Il dit, je connais votre foi, je sais que vous êtes élus. Eh, sérieusement, il faut y aller là. Je sais que vous êtes élus, il leur dit. Pourquoi? Parce qu'ils voient leur foi, l'œuvre de leur foi, et il peut en conclure ce qu'il en conclut. La foi implique un engagement. Maintenant, notez aussi que la foi authentique, la foi véritable, la foi chrétienne, implique une proclamation. La foi du disciple commence toujours par l'écoute de la parole de Dieu. On ne peut pas devenir un disciple de Jésus-Christ sans que la parole de Dieu nous ait été annoncée. À un moment ou à un autre, Dieu doit se révéler à vous d'une manière ou d'une autre. Et le moyen ordinaire par lequel Dieu a voulu que la parole soit annoncée, c'est la parole de la prédication, c'est l'office de la prédication. Je ne parle pas seulement de la chair, hein. Je parle de la manière de proclamer l'évangile d'une personne à une personne. Vous savez, c'est quand même frappant. Quand vous regardez Acte 10, vous savez la conversion de Corneille, le premier païen à se tourner vers Christ. C'est incroyable. Vous avez d'un côté Corneille, qui reçoit une vision. Vous avez de l'autre côté Pierre, qui reçoit une vision. Corneille, on lui dit, il y a des hommes qui vont venir chez toi, écoute-les, reçois-les. Pierre, on lui dit, va dans la maison de Corneille le centenier. Et Pierre, il dit, mais non, mais je ne peux pas aller dans la maison de Corneille le centenier, vous ne vous rendez pas compte, c'est des gens qui sont pas juifs, quoi. Et c'est là que vous avez cette grande vision avec la nappe qui descend du ciel et les animaux, et vous avez Dieu qui dit à Pierre, chasse, tu et mange. Il dit, non Seigneur, je ne peux pas manger quelque chose qui est impur. Et la voix lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas impur. Alors, Pierre va, accompagne les hommes qui étaient venus chez lui, au moment même où la vision se termine. Il file jusqu'à la maison de Corneille, le centenier. Corneille avait rassemblé sa famille. Il leur explique sa vision. Et au moment où il leur prêche l'évangile, ils se convertissent. Avec une puissance incroyable, parler en langue et tout ce qui s'ensuit. Et voilà que les gens sont convertis. Mais vous ne vous dites pas à un moment donné, mais pourquoi? Comment ça se fait que Dieu ait besoin de donner une vision à l'un, une vision à l'autre, d'envoyer l'un à l'autre? Il ne pouvait pas envoyer simplement la vision avec la parole et Corneille se convertit direct et Pierre, il reste au chaud chez lui. Charles Spurgeon, en commentant ce passage, a dit que nous devrions nous réjouir de ce que d'ordinaire Dieu utilise un homme pour apporter l'évangile à un autre homme. Parce que la sympathie d'un frère vaut mieux que la venue d'un ange. Et Dieu utilise des hommes pour parler à des hommes. C'est le moyen ordinaire qu'il a voulu pour que le royaume avance, pour que son évangile progresse. C'est ce qu'il a voulu, la parole de la prédication, le témoignage. Et c'est normal, regardez Romains 10, 13, 14. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui ne prêche? Si vous ne parlez pas, les gens n'entendront pas. Si personne ne prêche, personne n'aura la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et Christ, la parole incarnée, lui-même crée la foi, régénère. Voilà comment Christ agit. Et tout cela se fait par la parole de la prédication. Le vrai disciple a la foi. Cette foi, elle est authentique si elle implique un engagement et si elle implique une proclamation. Le vrai disciple a la foi. La deuxième caractéristique avec laquelle j'aimerais que nous puissions nous évaluer maintenant, c'est que le vrai disciple sert et adore Dieu. Le vrai disciple sert et adore Dieu. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On parle ici de quelque chose de formidable qui est en train de se passer à Thessalonique. On parle de conversion. Et la conversion, malheureusement, là encore, le terme a été déformé. On parle de conversion à l'islam, de conversion de l'islam au christianisme, de conversion du christianisme au bouddhisme. Mais est-ce que c'est ce que la Bible appelle conversion? Est-ce que c'est juste un changement d'état? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de radical qui se manifeste par l'adoration exclusive de Dieu par Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Abandonner tout ce qui a trait aux idoles pour venir adorer le Dieu vivant et vrai. C'est ce qui se passait à Thessalonique. Ces gens qui étaient là, la plupart des gens auxquels il s'adresse dans son épître sont d'arrière-plan païens, pas juifs. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il est resté que 3 semaines, comme certains commentateurs le soulignent. Je pense qu'il est resté plus longtemps, parce que pendant ces 3 Shabbats, il ne s'est adressé qu'à des juifs, selon son habitude. Mais il semblerait que sa lettre soit prioritairement à des gens qui ne soient non-juifs. Et donc, le but de cette conversion, c'est vraiment d'adorer le Dieu vivant et vrai. Et il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre que Dieu dans le cœur d'un disciple véritable. Si jamais nous donnons la place à quelqu'un d'autre, c'est que nous virons Dieu et c'est ainsi que nous attristons l'esprit. Chaque fois que nous partageons, et nous partageons, nous ne faisons que ça de partager. Nous avons besoin de repentance parce que nous sommes environnés par un monde qui nous est hostile, notre cœur est noir et nous savons que par nature nous sommes tellement enclins à nous détourner des commandements de Dieu que si nous n'avions pas l'esprit, nous ne serions même pas capables de nous tourner vers ce qui est bien, juste et bon, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il est impossible de se tourner vers Dieu sans Dieu. Bénissez Dieu d'être là aujourd'hui. Si vous êtes à lui, si vous lui appartenez, si vous êtes ses enfants, sachez que ce n'est pas votre travail. C'est votre responsabilité. Mais Dieu a tout accompli en Christ. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre que Dieu dans le cœur d'un disciple véritable. C'est exclusif. Et ce n'est pas étonnant si l'union avec Christ est dépeinte par analogie avec l'union du mariage. Pour montrer cette exclusivité, cette essence même que le chrétien a avec son Sauveur. Cette exclusivité, elle a un coût. Certains d'entre vous, vous avez grandi dans des familles chrétiennes, et quelque part, c'est comme si vous aviez Christ à la maison. Mais même vous, vous avez expérimenté ce qu'implique un engagement lorsque vous devez prendre position dans ce monde. C'est facile de se taire, mais à un moment ou à un autre, nos convictions sont toujours, toujours, toujours mises sur la ligne de front. Dieu l'a voulu ainsi. C'est le test de notre foi. Remercions Dieu. J'ai un exemple. Un exemple qui aussi me fait mal pour le pauvre Maxime Georgel. Figurez-vous que Maxime Georgel, il a demandé à venir avec moi aujourd'hui. Et je lui ai dit, bah ouais, on peut se voir ce matin à Charenton. Mais quand je lui ai dit ça, j'avais oublié que ce matin, je pressais le même message que cet après-midi. Donc du coup, il entend deux fois le message, deux fois les illustrations. Je pense qu'on peut dire avec certitude que Dieu a un message spécial pour toi aujourd'hui, Maxime. Alors qu'il y a quelques années, j'étais jeune chrétien, je cherchais un travail et on m'a proposé un poste qui était un meilleur poste que ce que j'avais jamais eu. C'était pour une société d'autocars qui s'appelle la SAVAC. Et c'était un poste de responsable d'exploitation. En gros, je m'occupais de toute la gestion des opérations pour une société de 500 cars. Et là, je me dis, waouh, je suis trop beau, là. Et j'y vais, mais j'y vais en courant à l'entretien, vous voyez. Et j'y vais, tout guilleret, et je me dis, c'est là, je vais me donner à fond et tout. Et effectivement, j'ai écoutez, sérieux, j'ai déchiré l'entretien. Quoi. Et l'entretien, ça s'est trop bien passé, et ça se passait bien. Et je voyais, j'étais avec les deux responsables, et ils étaient jeunes, quoi, une quarantaine d'années, vous voyez. 40 ans, c'est jeune, je vous précise. Ils étaient jeunes, une quarantaine d'années et tout, tu vois. Et puis, on avait un échange, et ça se passait vraiment, vraiment bien. Il y avait un vrai feeling, et ça correspondait exactement à mes compétences. Et c'était une évolution de carrière pour moi. Et puis, le salaire, alors là, je me voyais déjà en train de m'acheter une nouvelle salle de bain. Enfin, tu vois, bref, j'étais chaud. Et puis, à un moment, ils me disent, « Ah ouais, mais alors du coup, vous savez que vous devrez bosser tous les dimanches ?» Et là, gros froid. Et dans ma tête, je me suis dit « Je vais devoir bosser le dimanche. » À cette époque, je n'avais pas une théologie forcément développée sur la question du dimanche, sur la loi morale, tous ces trucs-là qu'on a fait ensemble quand j'étais encore ici avec vous pour ces quelques mois-là. Je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire le dimanche ?» Vous voyez, ça a été basique, mon raisonnement. Je ne vais plus aller à l'église. Je ne vais plus avoir de contact avec les frères et sœurs. Ben, je vais mourir. C'est ce que j'ai pensé, ma foi va mourir. Alors je leur ai dit, écoutez, est-ce que ça ne serait pas possible de travailler seulement un ou deux dimanches par mois? Parce que je vous explique ma situation, je suis chrétien, et le dimanche je vais à l'église. Et l'entretien qui était si jovial, si fraternel, si encourageant, il a tourné à une moquerie de leur part sur moi. Et je suis parti découragé, pour être franc. Et à mesure que je rentrais chez moi, en fait, j'ai été encouragé. Parce que j'ai pensé à ce verset qui parle des apôtres sortant du concile, qui ont été joyeux d'avoir été persécutés pour Christ. Bon, elle n'était pas grosse, ma persécution, je m'étais juste fait moquer un peu de moi. Mais j'avais perdu le poste, quoi, vous voyez. Et pour moi, c'était quelque chose. Par conséquent, j'ai été confronté par rapport à mes choix de vie, par rapport à ma vision du monde, pour quelque chose qui vous paraît anodin. Mais imaginez-vous, mettez-vous dans ma peau deux secondes, sur le coup, ça m'a fait mal. Et je me suis dit, ma foi, écoute, oh, c'était pas grand-chose, on ne va pas couper la tête. On ne m'a pas égorgé. Mais ça m'a mis face à mes responsabilités, y compris dans ce monde occidental. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le fait de me tourner vers Christ a automatiquement impliqué une proclamation. Et c'est pareil pour chacun d'entre vous. Chaque fois que vous renoncez à quelque chose, vous proclamez quelque chose. Vous montrez qui vous êtes. C'est la nature de votre identité. Autrement, vous vivez dans le compromis. Et vous passez votre vie à faire des compromis avec le monde parce que vous ne voulez pas être confronté dans vos convictions. Les Thessaloniciens, eux, ils savaient ce qu'ils risquaient. Ils avaient souffert la persécution comme Paul, ils l'avaient aidé à s'échapper de nuit, et ils savaient ce qu'ils allaient se prendre dans la figure. Et Paul leur écrit pour les encourager. Et un peu plus loin, il écrit les bonnes nouvelles qu'il a reçues par Timothée de Thessalonique, parce qu'il avait peur. Il se demandait s'ils n'allaient pas abandonner la foi. Mais ces jeunes disciples ont tenu ferme. Notre exclusivité, notre intransigeance à ne servir que Christ est en soi une proclamation par laquelle nous sommes appelés à nous défendre avec douceur, comme dit Pierre, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il y a une place pour défendre la foi, il y a une place pour les arguments apologétiques, il y a une place pour la discussion, l'argumentation, la réfutation, toutes ces choses-là, mais la parole nous demande de le faire avec amour. C'est peut-être notre plus grand challenge. Vous savez, aux États-Unis, il y a tout ce débat sur les armes, là, actuellement, y compris et surtout chez les chrétiens. À titre personnel, je vais être franc avec vous, ma position sur les armes évolue. Mais la plupart des chrétiens que je vois sont en mode « I love you ». Sans exagération, quoi. C'est « faisons entendre l'évangile aux musulmans avec une balle dans la tête ». Et il y a des discours, je suis profondément choqué. Et pour moi qui suis les informations à distance, et vous savez que je suis très actif sur les réseaux sociaux, il y a des discours chez les chrétiens qui m'inquiètent. Ça m'affole. Je me demande vraiment à quoi nous sommes en train de céder. La lutte, elle est aussi spirituelle. Ce qui se passe dans notre pays et en dehors, nous sommes des disciples, nous sommes aussi en première ligne. Vous savez que lorsqu'ils viennent attaquer ces terrasses, et lorsqu'ils viennent tirer des balles, lorsqu'ils viennent essayer de déstabiliser l'État français, implicitement, c'est un État chrétien qu'ils pensent atteindre. N'oubliez pas qu'au fond, c'est vous qu'ils cherchent à atteindre, même s'ils ne savent pas qui vous êtes vraiment. La réalité, elle est là. Mais nous sommes appelés à nous défendre avec amour. Et c'est aussi ce que Paul dit implicitement aux Thessaloniciens dans leur contexte de persécution. Le vrai disciple sert et adore Dieu. Et cela se voit, et cela s'entend, et c'est une proclamation. Mon troisième point. Le vrai disciple persévère même dans les pires circonstances. Il persévère, il tient bon même dans les pires circonstances. C'est un des tests majeurs de la foi du disciple. Je me rappelle de Steve Barnes. J'étais très jeune chrétien, j'avais quoi, 6 mois de vie chrétienne. Je vais l'écouter lors d'une conférence et il nous donne une illustration avec une éponge. Il dit, vous savez, une éponge, c'est très pratique. Vous la voyez, elle est jaune. Mais c'est seulement quand vous la pressez que vous savez de quoi elle est imbibée. Et dans un certain sens, telle est notre vie chrétienne. C'est quand nous passons par des moments difficiles, d'épreuves et de difficultés que Dieu sert la consistance de notre vie et il voit de quoi nous nous sommes imbibés. Et si on est imbibé de choses vaines, futiles, pécheresses, voilà ce qui nous soutiendra dans l'épreuve. Parce que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. De quoi te nourris-tu? Qu'est-ce que tes yeux voient? Qu'est-ce que tes oreilles entendent? De quoi t'imbibes-tu? Je ne suis pas en train de parler de défaillance morale nécessairement là. Je vous parle juste de quelle est la vision du monde qui vient alimenter tes lectures, les films que tu regardes, la musique que tu écoutes. Est-ce que tu te nourris du bon lait spirituel, de la bonne parole de Dieu, ou est-ce que ta théologie c'est Star Wars? Concrètement. Verset 6. Vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Il est en train de leur dire, vous avez été persécutés. Vous avez été persécutés, mais vous savez quoi? Vous m'avez imité et en m'imitant, vous avez imité le Seigneur. Le nombre de fois où il leur dit, devenez mes imitateurs. Vous savez quel verbe il utilise? Il utilise le verbe mathéteo en grec, qui a donné le nom substantif mathétès, qui veut dire disciple. Quand il leur dit « devenez mes imitateurs », il leur dit en gros « devenez mes disciples ». Et là, il leur dit « vous avez été mes disciples et ceux du Seigneur, en recevant ma parole au milieu de beaucoup de persécutions, de beaucoup d'afflictions ». Frères et sœurs, une chose importante qu'il faut qu'on se souvienne par rapport à nos souffrances, par rapport à nos difficultés, par rapport peut-être aux gens qui nous veulent du mal à cause de notre foi, par rapport aux gens qui se moquent de nous, par rapport même peut-être aux souffrances que nous avons indirectement par rapport à cela, c'est que ces choses-là nous ont été promises. La persécution est une promesse de Jésus lui-même. Je vous le dis en vérité, Marc 10, 29, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dans le siècle présent, avec des persécutions. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est clair, la persécution, c'est un don de la grâce de Dieu. Oh, vous croyez ce matin. Oui, vous croyez. Et vous croyez parce que Dieu vous a donné la capacité de croire. Mais avec cette capacité de croire, il vous donne la grâce de souffrir pour lui. Car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire pour lui, mais aussi de souffrir pour lui. Philippiens 1, 29. Tout disciple authentique qui veut vivre comme son maître a vécu sera persécuté. Et les Thessaloniciens imitent Paul et le Seigneur en étant persécutés. De quoi est fait votre disciple là? Est-ce que votre obéissance est la même dans l'épreuve que dans les bons moments? Thomas Watson a dit que l'homme pieux, dans l'épreuve, ne cherche pas à en sortir. En tout cas, pas premièrement. Mais il cherche comment glorifier Dieu à travers elle. La dernière fois que j'ai lu cette citation, je crois que j'avais envie de ne pas la lire. Ça m'a repris à un point. On est comme des souris. Devant le balai, on cherche le trou. Mais l'homme pieux, dans l'épreuve, ne cherche pas premièrement à en sortir, mais cherche comment glorifier Dieu. Si tu es un disciple authentique qui cherche à vivre pleinement ce que Jésus-Christ veut que tu vives, tu auras la grâce d'être persécuté. Et ces persécutions concourront à ton bien. Romains 8, 28. Maintenant, qu'est-ce que la persécution ? Il y a souffrir physiquement, comme les chrétiens dans les églises de maison en Chine, qui ne sont pas de l'église officielle, et qui sont tout le temps en train de se cacher ou de fuir devant soit des agents du gouvernement, soit d'autres milices ou autres, j'en sais rien. La même chose en Irak, en Syrie, toutes ces personnes qui sont mises à mort chaque jour à cause de leur foi, tu payes ou je t'égorge. Et des fois, il n'y a même pas d'avertissement quand ils ont attrapé ces 21 coptes, ou peut-être c'était des évangéliques, on n'en sait rien. Ils les ont attrapés, ils ont conduits sur une plage, 21 d'entre eux, en Libye, et ils ont mêlé leur sang à l'eau salée de la mer. Ça, c'est la persécution physique. Mais il y a aussi souffrir moralement, psychologiquement, spirituellement à cause de la foi. Et je vous parlais des moqueries sur le lieu de travail, par exemple, tout à l'heure. Mais ça peut être un voisin qui n'est pas content après vous, parce que vous faites des réunions de prière chez vous, et que ça fait trop de bruit. Vous pensez que vous auriez mis du rock'n'roll à fond, ça ne l'aurait pas dérangé. Mais si vous avez mis du rock'n'roll chrétien à fond, ça va le déranger, n'est-ce pas ? N'importe quoi qui puisse être un objet de persécution, morale, physique, psychologique, spirituelle, voilà ce que Jésus-Christ entend au travers de la persécution. Et le vrai disciple qui veut suivre son maître est toujours persécuté d'une manière ou d'une autre. Mais comment persévérons-nous dans ces circonstances ? La preuve de l'authenticité du disciple, c'est qu'il ne se fane pas comme l'herbe quand la première épreuve vient. La preuve de l'authenticité de votre foi, c'est que les soucis du monde ne vont pas étouffer la croissance de la plante. Et elle persévérera jusqu'à la fin. Le vrai disciple également, comme vous le savez, donne sa vie pour ses ennemis. Et ce matin, avant de venir, je suis tombé sur une histoire d'un anabaptiste qui s'appelait Dirk Willems. Avec un nom comme ça, vous l'avez compris, il ne pouvait être que hollandais. Dirk Willems habitait dans la région de Rotterdam. Et il a été mis en prison quand il a quitté le catholicisme pour devenir anabaptiste. Les anabaptistes étaient les premiers au moment de la réforme, au moment même où la réforme prenait place, à baptiser des adultes professant sur leur foi. Et lui était un peu plus tardif que les premiers anabaptistes, il était au XVIIe siècle, probablement dans la grande ligne des outhérites ou des ménonites, pour ceux qui s'intéressent à la question. Et ce Dirk Willems, il a été enfermé dans une prison parce qu'il avait renié le catholicisme. Et dans cette prison, il a été soumis à de durs traitements, à tel point qu'il est devenu très maigre, complètement affamé. Et un jour, il a construit une corde en prenant des chiffons, il a réussi à les attacher ensemble, il s'est enfui par une fenêtre de la prison où il était. Mais un garde l'a vu et s'est lancé à sa poursuite. Mais Dirk Willems, s'il était affamé, il ne pouvait pas avancer. Il savait qu'il allait être attrapé et probablement torturé, brûlé. C'était son lot. Il voulait juste s'enfuir et sauver sa vie. Alors il arrive devant le Ungestadt. C'est une grande rivière qui était à cette époque gelée. On était en plein hiver. Et il se dit, quelle horreur. Si je traverse la rivière et que la glace cède, je suis mort. Mais mort pour mort, autant avancer. Alors il s'est jeté sur la glace, il a commencé à la traverser et au bonheur, il arrive de l'autre côté. Cependant, il a fait à peine quelques pas sur l'autre rive qu'il entend un grand cri. Et c'est son poursuivant, sous les pieds duquel sa glace a cédé. Forcément, lui, il mangeait correctement. Et donc son poids a fait craquer la glace. Bon, vous souvenez de l'illustration de la chaise, et bon, c'est une autre histoire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce monsieur le poursuivait, la glace a craqué, et il s'est enfoncé dans l'eau. Et Dirk Willems se retourne, et je suppose qu'à ce moment-là, il a dû se dire, « Waouh, Seigneur, merci, tu me le livres entre mes mains, quoi. Je peux m'enfuir. » Mais Dirk Willems n'a pas réagi ainsi. Il a fait demi-tour sur la glace, en grand danger, il a sorti son ennemi de l'eau, et il l'a ramené sur la rive. Et vous vous dites, « Waouh, quelle magnifique histoire d'un homme qui a sauvé l'autre. » Ouais, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dirk Willems, il a été rattrapé du coup. Qu'ils l'ont ramené en prison et que quelques mois plus tard, ils l'ont brûlé pour hérésie. Mais cet homme qui était prêt à exposer sa vie pour l'homme qu'il poursuivait, nous a donné un témoignage puissant de ce qu'est la persévérance dans la foi pratique et dans les pires circonstances. Honnêtement, dans un contexte comme celui-là, qui peut dire qu'il n'aurait pas laissé l'autre se noyer? C'est une question qu'on est amené à se poser. Le vrai disciple persévère, même dans les pires circonstances. Mon quatrième point et dernier point vous paraîtra peut-être celui que vous connaissez le mieux, tellement je vous ai pris la tête pendant des mois et des mois avec lui. Mais le vrai disciple cherche à faire d'autres disciples. Un vrai disciple cherche à faire d'autres disciples. Regardez le verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Chers amis, quand on parle de vrais disciples, il y a quelque chose, ça doit être vu. Il y a un changement radical dont on parlait, la marque de la nouvelle naissance, la régénération qui commence un changement, qui l'amorce, un changement qui se poursuit, qui se voit. Les gens autour de nous devraient voir quelque chose qui change. Au moins un changement de vision du monde. Une manière de considérer le monde. Une manière de traiter les sujets de ce monde tel qu'ils nous parviennent et de traiter ces informations-là. Une vie qui tend à être semblable à Christ, à la fois dans la moralité, dans les relations avec les autres, dans son comportement avec le monde, dans la manière de pardonner. Les chrétiens sont des gens qui se pardonnent de manière inconditionnelle. Les chrétiens sont des gens qui sont prêts à renoncer à leurs intérêts et à se laisser dépouiller par d'autres pour le besoin du pardon. Et les chrétiens demandent pardon quand ils font mal. Parce que oui, les chrétiens font le mal. Christ est venu sauver des pécheurs, pas des justes. Christ est venu sauver des pauvres types, des pauvres femmes, des gens qui avaient besoin de salut. Si vous êtes là ce matin, cet après-midi, c'est que vous avez besoin de salut et d'une montre. Parce que je ne sais pas si on est le matin ou l'après-midi. Mais si vous êtes là ce matin, il y a quelque chose qui doit être impérativement vu, un changement immédiat à la conversion, mais pas seulement, un processus. Il y a la nécessité de voir et d'authentifier cette nouvelle naissance, ne serait-ce que par les relations mutuelles que nous avons dans l'Église. Voyez comme il s'aime, citait Tertullien au gouverneur de sa province à laquelle il écrivait. Voyez comme il s'aime, ces chrétiens. N'est-ce pas là la preuve de l'authenticité de la vraie religion que celle que nous professons? Mais quand des églises se divisent, se bousculent, se fritent, on vient presque aux mains parfois. Des enfants de Dieu, indéniablement, qui en viennent jusque-là. Quel piètre témoignage donnons-nous. Quand on parle de vrais disciples, il y a quelque chose qui doit être vu, mais quand on parle de vrais disciples, il y a quelque chose qui doit être entendu. Souvenez-vous du gadarénien, vous savez, cet homme démoniaque qui était nu et qui courait parmi les sépulcres. Et sépulcres, c'est des tombes, hein, je précise. Souvenez-vous de cet homme qui rencontre Christ, et les hommes qui avaient vu ce gadarénien nu le voient après sa rencontre avec Christ assis, vêtu dans son bon sens. Qu'est-ce que cet homme veut? Il veut suivre Christ. Mais Christ lui dit non. Retourne dans ta famille et dans ta patrie et dis ce que je t'ai fait. Dites-le. Expliquez aux gens autour de vous ce que Christ a fait pour vous. Partagez-leur votre témoignage. Expliquez-leur ce qui a transformé votre vie. Expliquez-leur comment vos péchés ont été pardonnés. Dites-leur que le monde entier est renfermé sous la domination du péché et que seule la mort de Christ est capable de délivrer du châtiment à venir parce que le péché s'oppose à Dieu. Dites-leur cela, expliquez-leur l'évangile, parlez-leur d'Adam qui a chuté, qui a entraîné le monde entier et tous les êtres humains avec lui, et parlez-leur de la rédemption qui est en Jésus-Christ, un salut éternel qui est offert à quiconque l'accepte. Quiconque, indéniablement. Le vrai disciple est appelé à partager autour de lui ce que Christ a fait pour lui. Enfin, quand on parle de vrais disciples, on parle de multiplication. Et on parle ici de la mission qui est donnée à tous les disciples, celle de faire des disciples. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qui vient à l'instant de leur prescrire? Faites des disciples. Eh bien oui, faites des disciples qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples. Et si on l'avait fait depuis le commencement du monde, je ne serais pas en train de parler avec vous aujourd'hui du haut de la chair, de sa mort. Ce qui se passerait aujourd'hui, c'est qu'on serait dans le paradis avec Dieu, transformé, ressuscité avec lui, semblable à lui, parce qu'on aurait fait tous les disciples qu'il aurait fallu avant que Christ revienne, parce que cette bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations pour leur servir de témoignage. Et alors viendra la fin, et on attend encore la fin. Nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et dans l'attente, nous nous multiplions. Est-ce que c'est étonnant, sérieusement? Vous savez, il y a un mandat créationnel qui a été donné à Adam au commencement. Il lui dit quoi? À Adam et à Ève, multipliez-vous, remplissez la terre. Quel échec! Mais finalement, ce n'est pas très différent. Hein. C'est ce qu'il nous est dit à nous aujourd'hui. Multipliez-vous, remplissez la terre. Il y a une correspondance en théologie, on parle de correspondance typologique. Je veux dire, le mandat culturel donné à Adam pointe vers la grande mission qui a été donnée aux disciples de Jésus-Christ et à l'Église. Nous sommes appelés à faire un royaume de Dieu et à l'étendre par notre proclamation de l'Évangile, par notre comportement, par la fructification de notre nouvelle naissance, de notre discipulat. Telle est la preuve de l'authenticité de notre vrai disciple. Quand on parle de vrais disciples, on parle de multiplication. Alors, qu'est-ce qu'un vrai disciple? Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui a la foi. Pas une foi vaine, pas une foi qui consiste en un système d'affirmation crédale que vous récitez ou que vous croyez intellectuellement. Non, une foi qui vous amène à sauter de l'avion sans parachute et à attendre que Dieu vous l'envoie. Telle est la nature de notre foi. Un vrai disciple sert et adore son Dieu. Un vrai disciple persévère, même dans les pires circonstances, même dans la persécution. Et un vrai disciple cherche à faire d'autres disciples. J'ai une question pour vous qui êtes rassemblés aujourd'hui. Pouvez-vous dire chacun individuellement, je suis un disciple authentique? Pouvez-vous dire aujourd'hui, j'appartiens à Christ, comme les Thessaloniciens ont appartenu à Christ dans le passé. Peut-être vous vous dites, waouh, c'est radical aujourd'hui là. C'est clair. C'était radical aussi pour les Thessaloniciens. Paul, il leur dit, je sais que votre amour, il est là, mais je vous demande de persévérer de plus en plus. Et vous savez très bien comment vous devez comporter dans la sainteté, vous devez encore être encore plus saint. Que celui qui est saint se sanctifie encore, dit-il encore dans l'Apocalypse. Il y a une dimension où Dieu ne se lasse pas de nous rappeler les mêmes choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes repris par ce message, mais vous croyez quoi? Vous croyez que je ne suis pas repris? Quelle est la première chose à laquelle Dieu nous appelle aujourd'hui? Il nous appelle à la repentance. Parce que nous sommes confrontés à la parole de Dieu. Et c'est normal qu'elle ne nous laisse pas en paix. Nous sommes appelés donc, frères et sœurs, à évaluer l'authenticité de notre discipulat et à agir selon cette évaluation. Je n'ai pas d'application pratique, en fait, à part une seule. Mais vous la connaissez déjà, tous ceux qui ont fait Tiforti avec moi, ou quand vous l'avez fait ici par vous-même. Vous savez, on vous encourage à considérer le monde sous deux catégories de personnes. Les perdus, les sauvés. C'est pas compliqué. Si quelqu'un, vous avez un doute sur son salut, mettez-le avec les perdus, ça lui mangera pas de pain, il réentendra l'Évangile. Quelle application je peux vous donner? Aux perdus, prêchez l'Évangile. Partagez-leur l'Évangile de la grâce. Montrez-leur par votre conduite, votre comportement, ce que l'Évangile a fait dans votre vie. Montrez-leur, expliquez-leur ce que Dieu a transformé en vous. Pointez vers le pardon des péchés. Montrez-leur la vie à venir, le jugement qui va arriver inéluctablement. Montrez-leur comment vous l'avez évité, parce que vous le méritiez. Mais vous l'avez évité pourquoi? Parce que Christ l'a pris à votre place. Montrez-leur ça. Montrez-leur comment Jésus les aime. Parlez-leur de sa mort à la croix, comment il a aimé jusqu'au bout. Le paroxysme de l'amour, c'est la mort à la croix. Le point culminant, je veux dire. C'est le paradigme, c'est le mot que je cherchais. C'est la mort à la croix. C'est ça, en fait, qu'il faut leur expliquer. Prêchez-leur l'Évangile. Mais si vous en avez d'autres autour de vous, des gens dont vous savez qu'ils sont nés de nouveau, des gens dont vous savez qu'ils sont de vrais disciples, mais qui ont mis en sommeil leurs disciples-là, rappelez-leur ce que les Thessaloniciens vivaient. Et montrez-leur qu'ils sont eux aussi appelés à développer leur foi, à persévérer même dans les pires circonstances, et à se multiplier sous la forme d'autres disciples. Prions. Seigneur mon Dieu, merci de ce que ta parole est là aussi pour nous donner des instructions précises, mais aussi nous reprendre à chaque fois que nous ne sommes pas dans les clous. Et nous nous laissons envelopper si facilement par le péché, et par l'air ambiant, et par notre monde si confortable ici en France. Oh, nous râlons bien souvent sur nos conditions de vie. Nous sommes français, n'est-ce pas? Et nous sommes tellement disposés à nous plaindre. Mais la réalité, Seigneur, c'est que nous sommes tellement confortables que ce confort nous étouffe et nous appesantit et nous ne faisons plus rien. Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons de ce que les premières communautés chrétiennes étaient parfois lourdement persécutées, mais nous voyons comment tu as agi au milieu d'elles pour les rendre toujours plus fortes et plus puissantes. Non pas que quelque chose vienne d'elles, mais tu les as bénies au sein de l'épreuve, tu les as bénies au sein de la persécution, tu les as bénies même quand ils n'avaient pas de berger pour les conduire, comme tu l'as fait avec l'église de Thessalonique. Nous voulons te faire confiance aujourd'hui. Tu es un grand Dieu, un Dieu glorieux, et nous voulons te demander de nous garder, de nous bénir ensemble, de nous accorder la grâce d'évaluer avec honnêteté l'authenticité de notre discipulat et de mettre en pratique ta parole. Amen.